Radio Prague, les informations.
Václav Klaus a eu des pourparlers avec son homologue russe Dmitri Medvedev. La Commission européenne a donné une évaluation négative des finances publiques tchèques. Le vice-président américain Joe Biden sera à Prague le 23 octobre. Le président tchèque Václav Klaus a eu à Moscou des pourparlers avec son homologue russe Dmitri Medvedev, une occasion pour lui d'apprécier les relations avec la Russie, dont notamment la coopération économique et les projets communs dans l'énergétique. Václav Klaus a également dit qu'il ne changerait pas la condition qu'il avait posée en rapport avec la signature du traité de Lisbonne. Pour lui, il s'agit d'une chose d'importance vitale. Et Václav Klaus a souligné qu'il ne voulait pas faire d'obstruction conjoncturelle. La Commission européenne a donné une évaluation très négative concernant les finances publiques de la République tchèque. À cause de ses déficits budgétaires et de la crise économique, elle se retrouve désormais dans la catégorie de pays à risque très élevé. Le ministre des Finances, Eduard Janota, estime que cette information confirme la nécessité de mettre sur pied des réformes des finances publiques, non seulement pour l'an 2010, mais aussi pour les années à venir. Le vice-président des États-Unis, Joe Biden, effectuera le 23 octobre une visite à Prague. Sont prévues des rencontres avec le premier ministre Jan Fischer et le président Václav Klaus. Cette visite doit notamment servir à assurer les dirigeants tchèques que la région centre-européenne joue un rôle essentiel dans les nouveaux projets américains de défense antimissile, après l'annonce faite le mois dernier par les États-Unis de renoncer au projet d'installation du bouclier antimissile en Tchéquie et en Pologne. Les pilotes de la compagnie aérienne Cessna se déclarent prêts à diminuer leur salaire à condition que la firme ne serait pas privatisée. Le chef du syndicat des pilotes, Philippe Gaspard, l'a indiqué à l'agence CTK. Le nom de l'écrivain français d'origine tchèque, Milan Kundera, né il y a 80 ans à Brno, figure parmi les 6 candidats proposés au titre de citoyen d'honneur de la ville de Brno, décerné tous les 4 ans. Le maire de Brno, Roman Onderka, a confirmé que Milan Kundera en avait été informé par une lettre et qu'il était prêt à accepter l'hommage qui lui serait rendu par sa ville natale. Les nuits galiléennes qui se dérouleront du 22 au 24 octobre seront le dernier grand projet s'inscrivant dans le cadre de l'International de l'astronomie. Partout dans le monde, ces nuits auront un programme en commun, à savoir l'observation des planètes, de la Lune et d'autres objets de l'espace. Météo, il fait actuellement froid dans tout le pays. Les températures diurnes maximales se situent autour de 5 degrés seulement. Une alerte au vent très fort est lancée jusqu'à jeudi soir. Le ciel est couvert, il neige en montagne. Ce jeudi sera le jour de toutes les Teresas, selon le calendrier local. C'était le journal présenté par Alena Gbertova.
Faits et événements en République tchèque. Anna Kubišta.
Bonjour à toutes et à tous. L'actualité tchèque en français, c'est tout de suite sur Radio Prague. On reviendra une fois de plus sur le traité de Lisbonne et les derniers développements autour du président tchèque, peu enclin à poser sa signature au bas du document. La crise, autre sujet récurrent de l'actualité, sera à l'ordre du jour avec celle qui agite Czech Airlines, la compagnie aérienne nationale. Et on finira sur une note plus chaleureuse avec le tout premier festival de la culture orientale à Prague, avant de passer à la rubrique historique. Bonne écoute de ce programme. Depuis la déclaration de Václav Klaus vendredi dernier, où le président tchèque a imposé une nouvelle condition avant de signer le traité de Lisbonne, la ratification de ce dernier en République tchèque est de plus en plus incertaine. Mardi 13 octobre, le premier ministre Jan Fischer s'est rendu à Bruxelles pour essayer de calmer les esprits et pour attester de sa bonne volonté. Les juristes des 27 pays européens à Bruxelles ou à Prague essaient de trouver une solution à une situation qui paraît de plus en plus bloquée, tandis que le président joue de son pouvoir et laisse planer l'hypothèse que, quoi qu'il arrive, il ne signera pas. Un clair veluire.
La visite du Premier ministre à Bruxelles mardi a sûrement été une des plus inconfortables qu'il ait connues depuis sa nomination à la tête du gouvernement tchèque. Jan Fischer s'est donc rendu dans la capitale européenne pour négocier la requête du président Klaus qui souhaite une dérogation pour la République tchèque sur la charte des droits fondamentaux, estimant que l'application de celle-ci pourrait être utilisée pour la remise en cause des décrets Beneš. Ceux-ci ont permis l'expulsion et l'expropriation de millions d'Allemands et de Hongrois des régions frontalières après la Seconde Guerre mondiale. Jan Fischer a réaffirmé à Bruxelles qu'il s'accordait avec la Commission européenne et les représentants des 27 pour que ces négociations n'entraînent en rien la réouverture des processus de ratification dans les autres pays européens. À Prague, lundi, il avait demandé officiellement au président de la République des garanties d'apposer sans délai sa signature si ces conditions, une dérogation sur la charte des droits fondamentaux et la conformité avec la Constitution tchèque, étaient remplies. À Bruxelles comme à Prague, la requête du président Klaus suscite un certain nombre de problèmes juridiques, même si la majeure partie des juristes, tchèques comme européens, s'accordent sur le fait que l'utilisation du spectre des décrets Beneš est juridiquement infondée. C'est ce qu'explique Michal Tomášek, professeur à la faculté de droit de l'Université Charles de Prague, où il dirige la chaire de droit européen.
Je peux seulement affirmer que le droit européen n'est pas rétroactif. Cela veut dire que le traité de Lisbonne, s'il entre en vigueur à partir de 2010, ne s'appliquera qu'à partir de 2010 et qu'il ne pourra agir sur aucune relation juridique qui a existé avant. Par exemple, il est impossible qu'il s'applique au décret Beneš de l'après-guerre. Le principe de non-rétroactivité est un principe de base du droit.
En rentrant de sa visite bruxelloise, le Premier ministre a dû faire face à une deuxième mauvaise nouvelle. Le président, resté quelque temps silencieux, a fait savoir, via son secrétaire, Ladislav Jakl, qu'il ne donnerait aucune garantie à sa signature. On écoute Ladislav Jakl à la télévision tchèque.
Le président n'a jusqu'à présent obtenu aucune garantie que les choses vont évoluer dans le sens qu'il souhaite. Il a obtenu l'assurance d'une bonne volonté que les négociations iront dans le bon sens, mais un échange de promesses contre une garantie, ce n'est pas une bonne affaire.
Après l'appel de quelques hommes politiques tchèques et surtout de diplomates et représentants européens, d'autres solutions face à l'obstacle Klaus commencent à être étudiées. Selon certains juristes, la signature du président n'est pas indispensable pour la ratification du traité, à condition toutefois que le président en donne l'autorisation et qu'il mandate un autre responsable politique, le Premier ministre par exemple, pour qu'il appose sa signature à sa place. Cette solution reste néanmoins contestée et ne résout pas le fond du problème. Selon le professeur Tomášek, des modifications du traité pourraient avoir lieu après sa ratification.
À mon avis, la meilleure solution serait que le président reçoive l'assurance des représentants des membres de l'Union européenne qu'ils s'occuperont de ses propositions, pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan juridique. Cela veut dire qu'il y aurait une révision possible du traité de Lisbonne. Dans cette hypothèse, le président ratifierait le traité et la République tchèque, comme État membre, proposerait quelques changements dans le traité de Lisbonne qui seraient acceptables pour la République tchèque et que le président estime indispensables.
Selon un journaliste du quotidien britannique The Times, le président Klaus, alors qu'il se trouvait dans la ville de Pardubice, aurait laissé échapper quelques mots, assurant que quoi qu'il arrive, il ne signerait pas. L'information a été démentie, mais les médias sont de plus en plus pessimistes. Le président Klaus a jusqu'au 27 octobre pour faire part de sa décision définitive, date à laquelle la Cour constitutionnelle rendra son verdict définitif sur la plainte déposée par 17 sénateurs ODS contre le traité de Lisbonne.
On le sait, la compagnie aérienne publique tchèque ČSA, ou Czech Airlines, traverse un passage difficile sur le plan économique depuis de longs mois déjà. Pour l'année 2009, la direction prévoit des pertes d'environ 3 milliards de couronnes, soit près de 120 millions d'euros. Mardi, le président du conseil de la surveillance de la compagnie, Václav Novák, a présenté un plan drastique de sauvetage qui repose principalement sur une importante réduction de la masse salariale et des effectifs. Plus de détails avec Guillaume Narguet.
licencier plus d'un tiers des 4600 employés que compte actuellement la compagnie et réduire le montant des salaires de tous ceux qui resteront, et notamment celui des pilotes, de 45%. Telles sont les deux principales mesures qu'entend appliquer le président du conseil de surveillance pour sauver CSA de la faillite au bord de laquelle elle se trouve. Mais les pilotes ne seraient pas les seuls concernés par les vastes économies prévues par Václav Novák. Nous envisageons également de réduire les salaires du personnel de vol de 25% et ceux des autres employés de 15%. Nous avons fixé une limite en dessous de laquelle nous n'entendons pas descendre, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de salaire d'un montant inférieur à 860 euros. Il faut également rappeler que le plan de restructuration présenté récemment par la direction table sur le licenciement d'environ 850 employés. Moi, je propose une augmentation du nombre de ces licenciements, mais il ne s'agit pas pour autant d'un plan totalement différent. Ajouté à la réduction des dépenses globales de fonctionnement de la compagnie, ces vastes coupes d'effectifs et ces baisses des salaires devraient permettre de réaliser des économies d'environ 120 millions d'euros dans les prochaines années. Parfois présenté comme un boucher par les médias tchèques pour ses méthodes drastiques qui ont permis par le passé de remettre sur pied d'autres grandes entreprises du pays, Václav Novák estime que le plan de sauvetage qu'il a présenté au ministre des Finances n'est qu'un affûtage des mesures de redressement récemment annoncées par la direction de la compagnie, dont le capital reste à 100% propriété de l'État tchèque. Les syndicats des pilotes ont réagi à ces informations en faisant savoir qu'ils étaient prêts à accepter une révision à la baisse de leurs revenus, mais seulement à certaines conditions, comme l'a expliqué le président des syndicats, Philippe Gaspard.
Nous sommes totalement favorables à cette mesure. Nous sommes bien conscients qu'une réduction des salaires est indispensable, mais il faut que l'État participe aussi à nos efforts. Le sauvetage de la société ne dépend pas que des employés. À nous seuls, nous ne la sauverons pas. Cela est donc impossible sans garantie de l'État. Celui-ci ne peut rien faire seul non plus. C'est pourquoi il faut que toutes les parties y mettent du leur. Les pilotes ont toutefois démenti l'information selon laquelle une des conditions à l'acceptation de la baisse de leur salaire serait l'arrêt du processus de privatisation de CSA. Celle-ci devrait être conclue cet automne, mais le gouvernement pourrait encore être amené à revoir sa position. Seul le consortium réunissant les sociétés tchèques, Travel Service et Unimex, a en effet manifesté son intérêt en formulant une offre d'1 milliard de couronnes, soit 40 millions d'euros, mais aussi en réclamant de l'État une injection financière du même montant. Une offre très loin donc des 3 à 5 milliards de couronnes initialement espérées par le gouvernement en début d'année.
Jusqu'au 17 octobre, Prague vit à l'heure de l'Orient grâce à la toute première édition du Festival de la culture orientale, intitulé « Un croissant de lune au-dessus de Prague ». Initié et organisé par Lucia Niemeczkova, à qui l'on doit déjà le festival Afrique en création, ce festival débutant propose déjà un programme riche avec projections, lectures, musique, pièces de théâtre. On écoute Lucia Niemeczkova.
C'est mon deuxième bébé, on peut le dire. Quand j'ai fondé le festival de théâtre africain, et ça a commencé à marcher après 9 ans. Et le festival est devenu important, on peut dire célèbre. Et donc j'avais envie de fonder un autre festival consacré aux cultures orientales, surtout le théâtre, ou les théâtres, la poésie, la littérature. Pourquoi ? Parce que comme les dramaturgies africaines, ce terrain n'est pas connu ici dans mon pays. Et que l'image de ce pays en général est plutôt noire. Ils montrent plutôt dans la télé les images des terroristes que les artistes. Et donc je me suis dit que c'est le moment où parler positivement et montrer la richesse des cultures des pays de Proche-Orient ou Maghreb, Mashrek, pays oriental.
Le festival a commencé le 10 octobre. On se trouve donc à la moitié du festival. Alors qu'est-ce qu'il y a déjà eu depuis le 10 octobre et qu'est-ce qu'on peut attendre d'ici encore la fin de la semaine?
On a démarré avec « Mille et une nuits ». Qui est image qu'on a quand on pense à l'Orient. C'était l'après-midi pour les enfants, mais aussi pour ses grands, pour ses parents. Il y avait une compte de théâtre mineur et après plusieurs ateliers pour les enfants. Dimanche et lundi étaient réservés pour le spectacle de la pièce de Mohamed Kassimi à Terre Centre.
Et il y a une adaptation en tchèque qui a été faite notamment par la troupe Saint-Germain au théâtre de la salle du Rock Café.
Mardi, c'était rencontre à la faculté des lettres, au département de théâtrologie, avec metteuse en scène Mariam Kakipour, qui vient d'Iran, de France. Nous avons présenté ces deux films documentaires du théâtre iranien, Siabazi et Shadi.
Donc le reste de la semaine, il reste 3-4 jours de festival ?
Oui, on a démarré plutôt avec les théâtres. On a parlé plutôt sur les théâtres au départ. Et puis, on continue depuis jeudi avec la littérature, avec la poésie. Il y a, on peut dire, un proverbe, un cliché sur les pays arabes. On dit que chaque arabe est poète. Et donc, il y aura la soirée consacrée aux poètes qui vivent, poètes arabes qui vivent ici, au Théâtre Viola. Puis samedi, ce sera la clôture à la bibliothèque municipale. Ce sera hommage à Mahmoud Darwish, poète palestinien, avec la poésie bien sûr, la musique, la danse et aussi... on va avoir quelque chose de très bon à manger. J'ai oublié encore un rencontre au Café Fra. Malheureusement, Atik Raimi ne vient pas, mais il va venir un acteur tchèque, Jan Budaš, qui va lire pour la première fois, vraiment ce sera la première en tchèque, de son roman... Voilà, donc la soirée littéraire afghane aura lieu au Café Fra. C'est Eric Lukavski qui tient Maison d'édition Fra qui a traduit ce roman.
Voilà, c'était Lucie Niemeczkova, initiatrice du Festival de la culture orientale à Prague, qui se termine le 17 octobre. Et je donne rendez-vous à tous nos auditeurs ce dimanche dans Culture sans frontières pour un entretien avec la réalisatrice Mariam Kakipour. C'est donc ainsi que se terminent ces faits et événements, mais tout de suite la rubrique historique de Radio Prague.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
Une exposition transfrontalière itinérante consacrée au 150e anniversaire de la mort de Josef Ressel, inventeur de la propulsion à hélice, est parvenue de Ljubljana via Brno à Prague. En 1829, Josef Ressel a doté un bateau à vapeur d'une hélice, une idée qui a marqué un tournant dans le transport fluvial et l'a rangé parmi les savants ayant fait beaucoup progresser les connaissances humaines dans le domaine des sciences techniques et naturelles. Trop confiant, Ressel fut dépossédé de son invention par des Français et des Britanniques. Et ce n'est que 10 ans après sa mort que l'Académie américaine des sciences a reconnu son mérite dans l'invention de la propulsion à hélice. Josef Ressel, un centre-européen, le thème de cette exposition, on ne peut plus européenne. Ressel est né en Bohême, il a vécu en Autriche, dans ses anciennes frontières, et c'est-à-dire aussi en Slovénie, en Istrie, puis à nouveau en Moravie, en Bohême, et donc dans tout cet espace que nous appelons aujourd'hui l'espace centre-européen. Ses propos sont ceux de Florian Haug, directeur du Forum culturel autrichien, où l'exposition Josef Ressel a été inaugurée le 7 octobre. Les États qui se réfèrent à son legs et qui honorent sa mémoire sont nombreux, car la carrière professionnelle de Joseph Ressel s'est étendue dans 5 États. Il a vécu et travaillé dans différentes métropoles européennes. Né en 1793 à Chrudim, d'une mère tchèque et d'un père autrichien, sa première épouse était croate, la seconde slovène. Joseph Ressel a fréquenté l'Académie d'artillerie de České Budějovice, a fait ses études secondaires à Linz, puis à l'école forestière de Marienbrunn et à l'université de Vienne. En Slovénie, il a passé la plus longue partie de sa vie active. Il a également vécu sur le territoire de l'actuelle Croatie et aussi en Italie, où il a passé de longues années au service de la marine de guerre et qui a eu une importance clé au regard de son invention la plus réputée, la propulsion à hélice. C'est en Italie, au début du XVIe siècle, que le peintre et homme d'esprit universel, Léonard de Vinci, a eu l'idée d'utiliser la vis d'Archimède pour propulser un bateau. Inspiré par cette vision et convaincu de sa justesse, Joseph Ressel est parvenu à lui donner vie il y a de cela 180 ans. Le 4 août 1829, à Trieste, en Italie, la première application pratique de son invention sur un navire, la civette, a eu lieu. Joseph Ressel a tout d'abord fait fabriquer dans un atelier de construction mécanique à Paris les éléments de son hélice. Trop confiant dans les affaires commerciales, il a dévoilé le principe de son invention avant de conclure un contrat avec ses partenaires. Peu après, des marchands français l'ont dépossédé de son invention en déposant un brevet à leur nom. Le litige pour la primauté s'est prolongé pendant plusieurs décennies. Cela n'empêche que la construction de la civette a été achevée. C'est un navire à vapeur de 6 chevaux, long de 21 mètres, d'un tonnage de 33 tonnes, actionné par une hélice. Le 4 août, le navire a quitté le port de Trieste. Au départ, le voyage a été rapide et tranquille. Hélas, la démonstration s'est terminée par un échec. Non pas à cause de l'hélice, mais du manque de fiabilité de la machine à vapeur. Les toyaux en cuivre n'ont pas supporté la température élevée et ont explosé, mettant en danger la vie de la quarantaine de personnes présentes à bord. Après cet accident, les autorités ont mis un terme à l'expérience et interdit d'autres voyages de bateaux propulsés à l'hélice. Ainsi, Joseph Ressel est entré dans l'histoire en tant que premier homme au monde à avoir utilisé un navire actionné par une hélice et mis sur pied une démonstration pratique de cette invention révolutionnaire, mais pas seulement, comme l'a rappelé lors du vernissage l'ambassadeur de Slovénie à Prague, M. Franz Butt.
Joseph Ressel n'est pas l'invention de la hélice.
Il n'y a pas que l'invention de l'hélice qui reste attachée au nom de Joseph Ressel. Ce dernier en a réussi beaucoup plus dans sa carrière. Il a été l'ingénieur forestier auquel revient le principal mérite pour le boisement du karst slovène et croate. Il a aussi été un inventeur dans beaucoup d'autres domaines. Joseph Ressel s'est en effet illustré avec plusieurs solutions originales qui ne sont toutefois restées que sur papier, n'ayant jamais été réalisées de sa vie. Parmi ces solutions originales, citons notamment les nouveaux types de machines à vapeur servant à la lixiviation des substances colorantes et des tanins, l'invention des pressoirs à vin et à huile, ainsi que par exemple celle de la poste pneumatique ou encore du télégraphe optique. Joseph Ressel a aussi rêvé de faire actionner les bateaux par un dispositif analogue à la caudale. Joseph Ressel est mort lors d'un voyage d'affaires à Ljubljana en 1857 des suites d'une fièvre paludaine. Il est mort sans avoir été reconnu comme l'auteur de l'invention de l'hélice. Ce n'est qu'en 1866 que l'Académie des sciences de Washington lui a officiellement restitué cette primauté. Depuis, des manifestations de reconnaissance se sont succédées en Autriche, à Linz et à Vienne, où sa statue occupe depuis 1863 l'emplacement devant l'université technique. En Bohême, les villes de Prague, Ústí nad Labem, Olomouc et Chrudim ont baptisé des rues à son nom. En Slovénie, où il est inhumé au cimetière de Ljubljana, une grande place porte son nom. Depuis 1901, le buste de Josef Ressel occupe aussi une place parmi les autres hommes illustres au Panthéon du Musée national de Prague.
C'est la fin des émissions langue française de Radio Prague, mais vous le savez, l'info continue sur le web au www.radio.cz. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours.